Bon, écoutez, on veut faire un espèce de bilan du MeToo. OK, pour commencer cette deuxième heure, puis on va le faire avec Katia Gagnon. Katia Gagnon, c'est une journaliste, bon, notamment d'enquête, et elle dirige les journalistes d'enquête de la presse. Bonjour, Katia.
Allô, Bernard.
Parce que là, évidemment, c'est le début du procès de Éric Salvaille. Il y a le procès de Weinstein.
Oui, le jury délibère.
À New York. Weinstein. Voilà, exactement. Et là, dans le fond,
va voir M. Roson en juin.
On va voir M. Roson en juin. Et là, on vient d'entendre d'ailleurs Philippe nous raconter des extraits donc du témoignage de la victime présumée, hein, tant qu'il n'est pas condamné, mm-hmm. C'est une victime présumée.
Absolument.
D'Éric Salvaille. Je parle bien entendu de Donald Duguay. Et là, c'était pas mal explicite, mettons. Hein, c'était pas mal explicite. Alors, on verra si le juge va croire sa version ou celle éventuellement d'Éric Salvaille. Mais si on s'éloigne un petit peu, là, puis on fait un peu le procès. Pas le procès, le bilan de ces procès et de cette affaire MeToo. Mettons les deux ou trois choses qui ressortent, c'est quoi?
Bien, la première chose, Bernard, qui ressort pour les gens en général qui ont lu les articles dans le journal sur Éric Salvaille, sur Gilbert Roson et sur Harvey Weinstein, c'est le même scénario dans les trois cas, c'est qu'il y avait un nombre élevé de victimes qui se sont déclarées dans les médias et au final, en procès, il y a une ou, dans le procès Weinstein, deux victimes. Hein? Donc, pourquoi? Puis là, les gens, ça pose sorte de questions. Comment ça que Éric Salvaille avait, nous, on avait 11 témoignages dans la presse. Je rappelle que pour ce papier-là, on n'a pas pris le témoignage des gens qui nous ont appelés pour l'écrire dans le journal. On a appelé 40 personnes dans ces 10 jours de travail sur Éric Salvaille. Hein, donc, on a fait... La personne, il fallait qu'elle nous raconte son histoire. Il fallait qu'il y ait des gens qui étaient témoins ou à qui elles avaient raconté les faits à l'époque, qui viennent corroborer la version de la personne avant qu'on publie ça. Hein, donc, c'était pas publié, comment dire, à la légère. Mais néanmoins, les procureurs... il y a eu un certain nombre de plaintes à la police. Évidemment, il y a de ces gens-là qui ont témoigné dans les cas Salvaille et Roson qui n'ont pas porté plainte à la police. Hein, et c'est leur choix de ne pas le faire.
Des onze personnes dont vous avez rapporté le témoignage, il y en a qui n'ont pas porté plainte, mais il y en a qui ont porté plainte. Et visiblement, les plaintes n'ont pas été retenues parce qu'il y a seulement une victime, finalement.
C'est ça. Les plaintes n'ont pas été retenues. Pourquoi? Ben, il y a plusieurs raisons. C'est parce qu'évidemment, les procureurs ont des critères très élevés pour le choix de leur cause. C'est un procès, on doit prouver la culpabilité de l'accusé hors de tout doute, raisonnable. Souvent, dans les cas d'agression sexuelle, bien évidemment, par définition, il n'y a pas ou peu de témoins. Le cas de M. Salvaille est peut-être une exception à ça, mais il n'y a pas ou peu de témoins. Il faut que la victime soit extrêmement solide parce que le contre-interrogatoire n'est pas facile en général.
Et le procureur, je lis là, parce que je viens de faire une entrevue avec justement Anthony Seyé, là. Je ne sais pas si tu l'as entendu.
Non.
Mais lui, il a été agressé. Il n'y aura pas d'accusation. Et le DPCP dit, dans le courriel qu'on a reçu, le procureur doit être convaincu sur le fondement de son analyse qu'un juge ou un jury pourrait raisonnablement conclure à la culpabilité du suspect à l'égard de la preuve.
Mm-hmm.
Donc, ce que j'en comprends, Katia, c'est qu'un certain nombre de témoignages n'ont pas été retenus parce que le DPCP doutait de sa capacité de faire condamner Salvaille sur la base des témoignages, sur la base de la preuve.
Effectivement, parce qu'évidemment, la preuve devant un tribunal, elle est importante, elle est imposante. Et dans le cas Roson, par exemple, les procureurs l'ont dit, hein, c'est pas parce que les faits ne se sont pas produits ou qu'on ne croit pas nécessairement la victime, c'est parce qu'on a de la misère à démontrer ça devant hors de tout doute raisonnable.
Ben oui, on est au criminel.
Hors de tout doute raisonnable devant un juge ou un jury. Donc, la première chose qui ressort, c'est ça, c'est cette espèce d'écart entre ce qui était dans les médias et ce qui ressort en cours. Et moi, je suis obligée de constater, Bernard, que dans les cas québécois, les victimes qui ont été choisies par les procureurs étaient des victimes qui n'avaient pas témoigné dans les médias. Hein, qui ne faisait pas partie de cette vague de témoignages initiale.
Est-ce que tu penses qu'il y a une relation de cause à effet?
C'est une bonne question. Je suis un peu partagée là-dessus, Bernard, je te dirais, parce que je me suis effectivement posé la question. Est-ce que le fait d'avoir témoigné dans les médias a nuit, pour toutes sortes de raisons, à la poursuite, si tu veux, judiciaire de ces histoires-là?
Pourquoi? Parce que, par exemple, j'émets une hypothèse. Parce que la personne a témoigné publiquement. Après ça, les procureurs la rencontrent ou les policiers la rencontrent. Bon, regarde le témoignage. Il y a peut-être le risque qu'entre la version donnée aux journalistes et la version racontée aux policiers, policières, il y a peut-être des contradictions. Et exactement. Voyant ces contradictions-là, on se dit on peut pas aller au bat avec ces témoignages-là, avec ces victimes potentielles-là.
Il y a certaines victimes dans les cas québécois qui ont donné plusieurs entrevues dans les médias. Évidemment, les procureurs vont te le dire, Bernard, plus tu multiplies les entrevues, plus tu multiplies le risque de différer légèrement. On ne parle pas du centre de l'histoire. Là. On parle de petits détails
qui
peuvent miner la crédibilité auprès du juge, auprès du jury. Donc, c'est pas ça peut être effectivement pas été nécessairement positif le fait d'avoir témoigné dans les médias.
Hein? C'est fou.
D'un autre côté, Bernard, je suis parfaitement convaincue, et il n'y a personne qui va me faire démordre de ça, que ces histoires-là ne seraient jamais sorties sans les journalistes. C'est les journalistes qui ont travaillé, qui ont fait leur boulot et qui, avec les avocats des médias, ont créé une sorte de droit nouveau sur le MeToo, parce qu'on n'avait jamais vécu une chose comme ça. Là. On n'avait jamais vu quelqu'un accusé dans tous les cas de MeToo, là, c'était un grand nombre de personnes. C'était une personne. S'il y avait eu une personne, on n'aurait jamais pu publier une histoire comme ça.
Mais non, parce que
c'est la version d'un contre la version de l'autre. Le bon, qui c'est qui a raison, qui c'est qui a tort. Enfin, puis là, on détruit la réputation de quelqu'un, bien sûr. Donc, journalistiquement, ça n'aurait pas pu fonctionner. Mais là, on avait, dans le cas de MeToo, c'est ça qui était tout à fait nouveau. C'est qu'on avait 5, 6, 10, 20. Dans le cas de Weinstein, 80. Au total, victimes qui venaient nous dire « Écoutez, voici ce qui m'est arrivé. » Et il y avait, dans tous ces cas-là, une espèce de pattern un peu semblable. Il y avait comme des gestes qui se répétaient et qui étaient toujours un peu la même façon de fonctionner. Donc, c'est pour ça, c'est à cause de cette masse de témoignages-là qu'on a pu publier ces articles-là et qu'on a pu... Donc, il a fallu trouver des termes nouveaux aussi. Il y a eu du droit nouveau, beaucoup dans cette journalistique, du droit médiatique nouveau.
Oui.
Par exemple, le terme d'inconduite sexuelle. Parce que, bien sûr, nous, on ne pouvait pas... Ou les collègues du 98.5 qui ont fait l'histoire sur Roson, les gens du Devoir, ne pouvaient pas
Monique,
dire...
Monique et Émilie.
Ne pouvaient pas dire agression sexuelle ou harcèlement sexuel, parce que ça, c'est des accusations, bien sûr,
l'appellation, si je peux m'exprimer.
Comment
l'appellation inconduite sexuelle.
C'est exactement.
Ça, c'est un nouveau terme, dans le fond.
C'est une création du mouvement MeToo dans les médias. Donc ça, c'est évidemment l'aspect médiatique. Mais à mon avis, Bernard, le plus important impact de MeToo, il se passe pas dans une salle de cours, il est dans la vraie vie. Il est une espèce de... ça a été un recalibrage complet, ce mouvement-là, des relations hommes-femmes.
Oui.
Et si tu veux mon avis, c'est très bien. Mm-hmm. Et c'était une bonne chose que de faire ça. Dans les jours qui ont suivi ce papier-là sur Éric Salvay, c'est une journée que j'oublierai jamais, Bernard. J'ai jamais vécu une journée comme ça dans ma vie. J'ai été inondée d'appels. Moi et ma collègue Stéphanie Vallet, on a été inondés d'appels de sortes de gens qui dénonçaient toutes sortes de monde. Et c'est ça qui m'a le plus marqué, dont des gens tout à fait ordinaires, des infirmières, des professeurs, des personnes là, qui n'étaient pas en contact du tout avec des gens connus et qui disaient, écoutez, moi, je vis la même chose dans mon milieu de travail, je suis harcelée sexuellement, on fait toutes sortes d'allusions sur moi, et je souffre de ça. Et ce qui est triste, c'est que le mouvement MeToo, ça a été évidemment des gens connus qui ont été dénoncés, mais
ça s'est répercuté, Katia, sur, je dirais, dans la société en général.
Ça s'est répercuté et c'est un peu, Bernard, si je peux m'exprimer un peu brutalement, ça a été la fin du règne du mononcle. OK? Les petits commentaires de mononcle là, qu'on entendait souvent, avant, OK? Quand on était une jeune fille un peu jolie, Ben, on entend moins maintenant. Puis je vais te dire franchement, c'est une grande libération.
Oui.
C'est une grande libération. Moi, j'ai vécu ça moi-même.
T'as subi ça, des commentaires de mon oncle, toi?
Ben, c'est sûr. Mais non, voyons donc. Non, on a n'importe quelle fille là, qui a 25 ans puis qui rentre dans un milieu médiatique. Là, moi, je me souviens d'une de mes collègues qui m'avait raconté, je la nommerai pas, mais elle travaillait dans un média bien connu, et un collègue qui était donc entré dans la salle de rédaction, un collègue bien connu, qui lui avait dit, en lui regardant les seins, il avait dit « Hey, toi, t'es équipé pour réussir.
Hein? » c'est brillant.
C'est brillant, mais en 2020, là, on n'en veut plus de faire de même. Mm-mm. C'est-tu comme possible de travailler dans un milieu de travail, d'avoir 25 ans, d'être jolie, de s'habiller comme on veut, et de ne plus avoir à supporter ce genre de commentaires-là?
Et, donc, ça a nettoyé l'atmosphère.
Bien, moi, de mon point de vue, oui, ça a nettoyé l'atmosphère. Et je te souligne un rapport de l'Assemblée nationale qui est paru à l'automne, où il y avait quand même des choses un peu sidérantes sur les... C'était une firme de psychologues donc, qui a été mandatée pour parler aux employés de l'Assemblée nationale, 550 employés de l'Assemblée nationale, et où on disait les membres du personnel de l'Assemblée nationale ne sont pas des objets sexuels et il est important que les députés le comprennent. Là, on parle là, de secrétaire, de stagiaire,
de page.
Tu as été page, tu sais. Bon, tu as vu ce que c'était. Alors, les députés là, qui font des commentaires, je dis députés, et ça peut s'appliquer à n'importe quel autre. Je veux dire, ça peut être journaliste, ça peut être un docteur, ça peut être n'importe qui. Hein? Donc.
Alors, il y a une espèce de recalibrage qui s'est fait, dans le fond. Je pense que c'est le mot que tu as utilisé. Faudra voir si ça dure. Faudra voir ce que ces procès-là vont produire. Honnêtement, Katia, s'il fallait que Weinstein, Salvaille et Roson, ou l'un ou deux des trois, soient acquittés, puis on ne peut pas l'exclure, là.
Absolument pas.
On peut pas l'exclure,
absolument
là.
Absolument pas.
Ça n'aura pas le même impact, je dirais, sur le plan de la durée, que si jamais les trois sont condamnés. Si les trois sont condamnés, je pense qu'on augmente de beaucoup les chances que les changements de mentalité dur.
Mm-hmm. Mais c'est ça. Il y a comme deux issues, effectivement, à l'acquittement ou la condamnation. Mm-hmm, mm-hmm. Et s'ils sont condamnés, ça aussi, ça a un impact extrêmement important.
C'est sûr.
Mais l'inverse est vrai.
Exactement.
Tu as raison.
Alors, moi, je vais te dire honnêtement, puis on va se laisser là-dessus. J'ai hâte de voir, honnêtement, Katia, je pense que ça a eu un impact positif sur les relations hommes-femmes. Je pense qu'il y a pas mal de choses qui se disent, qui ne se disent plus. Ou même, des fois, mettons, il y a quelqu'un qui aurait le goût de le dire puis qui va se retenir dorénavant. Ça, je pense que ça a eu ça a eu un effet de frein sur certaines paroles, puis certains comportements, puis certaines attitudes. Maintenant, le frein, tu sais comment c'est, hein? Le frein, il peut rester en place ou des fois, le frein, on peut le lever, hein, le frein. À un moment donné, on peut retourner dans nos vieilles habitudes, dans nos vieux sillons. Alors, je sais pas, toi, est-ce que tu es convaincu que c'est des changements qui sont durables, que les mentalités ont changé, que les valeurs ont changé pour de bon, ou est-ce que tu es encore à te demander, avec un point d'interrogation, je ne sais pas si c'est éphémère ou si c'est durable?
Moi, je pense que ça a eu une espèce de, tu me permettras l'expression anglaise, mais je la trouve vraiment éloquente, une espèce de « chilling effect », hein, sur les hommes en général, où on se pose la question « est-ce que c'est une bonne chose pour moi de dire ça? Hein? » Et à tous ces hommes-là qui se disent « ouais, mais là, moi, là, je ne peux plus rien dire, puis là, je ne peux plus complimenter les gens et tout ça.
Ouais. »
Ben, j'ai un test.
Oh, OK.
OK? Le test, c'est, si vous avez une fille, là, pensez à votre fille et imaginez-vous quelqu'un dire ce que vous vous apprêtez à dire à votre fille. C'est-tu correct? Accueillez-vous bien ça, le commentaire? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose de dire ça à votre fille? Si oui, bien, vous pouvez le dire, il n'y a pas de problème. Tout est beau. Sinon, si vous trouvez que, ouais, non, je ne suis pas sûr que ça me tenterait que quelqu'un dise ça à ma fille, bien, dis-le pas.
C'est une excellente conclusion. J'ai une fille. Et je pense à elle. Katia Gagnon, merci.
Ça m'a fait plaisir.
Dans un instant, je vais vous parler de ces éducatrices qui considèrent qu'elles ont été, d'une certaine manière, syndiquées de force. Puis là, elles voudraient sortir du syndicat dans un instant.